Bonjour à tous, merci d'être là. Puis on va discuter avec Florence Dupré de la Tour qui a commis ce livre qui s'appelle Six Guiches. Et elle va nous expliquer un petit peu l'aventure de ce livre. C'est de ça dont on va parler. Mais d'abord, une première question, Florence. Pourquoi la bande dessinée?
La bande dessinée, c'était pas un projet arrêté de ma part. J'avais commencé le dessin. Je savais que j'avais une expression à faire valoir d'une façon ou d'une autre. J'ai longtemps hésité entre le théâtre et le dessin. Bon, ça a été le dessin qui peut-être me correspondait un petit peu plus. C'est une activité très solitaire et j'étais déjà assez solitaire. Voilà. Après la bande dessinée, je m'en suis rendu compte petit à petit en la pratiquant. Elle a une caractéristique assez particulière, sa forme elliptique narrative, donc qui procède par cases successives. Et entre chaque case, il y a la place au fantasme. Parlait énormément à ma mémoire et au fonctionnement de ma mémoire, qui fonctionnait de la même façon. Donc, je pense que c'est ce fonctionnement, cette forme-là qui m'a parlé. Je me rendrais pas compte, bien sûr.
Ouais, c'est cette forme de narration qui t'a convaincu de vouloir faire de la bande dessinée, de te dire que c'était peut-être le moyen d'expression qui te convenait le mieux, quoi.
Ouais.
Voilà. Donc, tu as publié quelques bandes dessinées de forme classique. Puis arrive une période dans ta vie où. Tu as une espèce de malaise un peu existentiel, tu te poses des questions sur ton avenir, tu ne sais plus quoi faire. Bon, et tu as un projet de livre qui te semble très important, qui va être Six Guiches. Et ce projet devient compliqué à mettre en chantier. Tu vas aller voir les éditeurs et puis là, ça ne va pas se passer comme tu imaginais.
Alors, c'est vrai que... j'avais abordé la bande dessinée de manière assez classique et conventionnelle, avec plusieurs publications qui correspondaient à de la bande dessinée que j'avais toujours lue. Et entre-temps, est arrivé Internet, évidemment, qui a marqué un peu tout le monde, plus ou moins. Et je me suis plongée dans Internet avec, frénésie. Je ne savais pas pourquoi, j'étais fascinée par cette forme, mais il y avait une sorte de monde, de nouveau monde qui s'ouvrait à moi. Et je continuais à faire de la bande dessinée classique, mais je sentais qu'il y avait cette forme qui m'appelait, je ne savais pas encore comment l'aborder. Et je lisais énormément de blogs, de bande dessinée, mais on en trouvait tous les sites qui proposaient des commentaires et des réactions de lecteurs me fascinaient totalement. Alors en bande dessinée, les blogs étaient assez sages, mais il commençait à y avoir une certaine interaction timide avec le lectorat. Par exemple sur le blog de Laurel, qui est une blogueuse très connue, qui a une production assez sage d'ailleurs, mais qui invitait ses lecteurs à donner leur avis et elle répondait en dessin à ses lecteurs. Voilà.
Ouais, c'est vrai que les blogs féminins sont plutôt connus par leur sagesse et plutôt de raconter le quotidien des femmes qui les animent ou qui les racontent, elles se racontent leurs enfants.
Mais le fond ne m'intéressait pas, c'est la forme qui me fascinait.
Ouais, d'accord, mais donc toi tu as voulu. Tu n'as pas décidé de faire un blog où tu racontais ta vie d'une manière très sage. Tu vas la raconter, ta vie, dans cette bande dessinée, parce que elle est en grande partie autobiographique, puisque tu racontes que, un 3 juillet, tu vas donner l'incarnation à un personnage que tu avais utilisé avant, parce que tu étais rôliste.
Oui.
Et ce personnage de Séguige, le nain d'Exoroth, qui est un personnage méchant, finalement. Hein.
Très méchant.
Et très, très méchant, très horrible. Donc, tu décides de... Plutôt que de rester dans le jeu de rôle, qui est plutôt où le jeu de rôle a plutôt un rôle d'acteur, où tu as plus écrit d'acteur, là tu décides de faire l'incarnation. Alors, quelle est la différence entre quand on se met à incarner un personnage ou quand on le joue ?
Alors, bon, pour nos spectateurs, peut-être que je peux être un petit peu plus précise. Ce livre se présente comme une autobiographie qui commence par une crise existentielle réelle. Et donc j'ai une vie qui ne me correspond plus, en tout cas que je n'aime plus. Et pour sortir du réel, ou en tout cas pour le transformer, je décide de jouer un personnage de jeu de rôle, mon personnage de jeu de rôle préféré, qui est un nain nécromancien niveau 19. Et pardon ? Non, le jeu de rôle des Terres du Milieu, JRTM. Voilà, donc c'est un personnage du mal. Alors je suis dans ma vie une personne plutôt sage et gentille et qui se laisse facilement marcher sur le visage en disant merci, qui plus est. Donc à partir de cette décision, alors bien sûr j'explique, évidemment ça ne vient pas comme ça, hein, une décision pareille, j'ai fait 15 ans de jeu de rôle et donc c'est un personnage qui m'a beaucoup tenu, habité, que j'ai réellement joué. Et sur cette question du jeu de rôle, quelle est la différence entre le jeu de rôle et cette expérience que je me propose à vivre, c'est que le jeu de rôle est très, très codifié. On est dans une pièce avec des... On en sort peu, à part si on fait du grandeur nature, mais là c'est encore autre chose. Mais il y a des règles. Y a des règles assez précises et on reste dans l'imaginaire.
Puis il y a un maître quand même dans le jeu de rôle. Il y a le maître du jeu, voilà. D'où le jeu de mots sur le titre du bouquin, Sigish ou le maître du jeu, J-E.
Oui.
Et le maître du... On peut aussi penser que tu joues aussi avec le verbe jouer dans les deux, quoi.
Bien sûr, bien sûr. Parce que avec la question d'identité également.
Et la question de l'identité, ouais. Donc, toi, tu conçois ce livre et ton projet comme... Tu veux être le maître de ce qui va se passer. Tu veux surtout pas te laisser influencer par le public, par ceux qui vont venir te parler. Rien. Absolument pas. C'est pas le but original.
Ah non. Au départ, je me frotte les mains en me disant que je vais peut-être, grâce à ce masque, à ce personnage, prendre une certaine forme de contrôle sur ma vie. Et ce contrôle sera illusoire, bien sûr, bien entendu.
Donc, maître du jeu, tu vas l'être tout début, mais tu vas évoluer tout doucement et d'autres personnages vont apparaître. Alors, ce qui est important, c'est dans la forme que prend la bande dessinée, c'est que donc c'est une bande dessinée, il y a des planches, il y a des dessins, mais de temps en temps, à partir d'un certain moment, on arrive les commentaires des gens qui suivent le blog et qui suivent ton évolution. Alors là, il y a des choses absolument extraordinaires. Donc, il y a des personnages qui, finalement, ont tous des pseudonymes. Bon, toi, tu sais peut-être qui ils sont, qui ils sont pas. Et puis, il y a tout un jeu sur la réalité de toi, ce que tu racontes, la réalité de ce qu'ils te disent, et sur lequel ça va influencer ton avancée dans cette aventure, quoi.
Ouais. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs niveaux de lecture dans ce bouquin. Le premier, c'est le premier niveau de lecture, c'est l'histoire elle-même. Mais qui va utiliser un support, et c'est ce support qui m'a intéressé, c'est donc le support du blog. Et d'Internet. Ce deuxième niveau de lecture va amener la question du contrôle et de la manipulation sur le récit et évidemment de la réalité des faits. Ceux qui connaissent bien Internet savent très très bien qu'il y a un degré de manipulation du réel qui est assez omniprésent. Et c'est ce que je voulais retranscrire en prenant le support du blog. J'aurais très bien pu faire cette histoire-là en allant voir un éditeur lambda en lui disant bon bah voilà, je reste dans la fiction pure et surtout je n'utilise pas cette forme du blog. Mais cette forme d'Internet va pouvoir générer un trouble avec l'apparition, comme tu l'as dit, des commentaires. La pénétration du lectorat dans l'histoire. Et ce que je pensais être une œuvre de contrôle au départ, de contrôle du réel, se retourne contre moi et ce sont les lecteurs qui se rendent compte petit à petit dans l'histoire qu'ils sont dans un jeu et qui vont pouvoir y participer et prendre le contrôle non seulement de ma vie mais aussi de mon livre. Et c'est ce trouble-là que... Alors, tout n'était pas contrôlé, évidemment, hein. Comme en jeu de rôle, pour ceux qui connaissent un petit peu et pratiquent, le maître du jeu va placer des points d'ancrage dans son récit et les joueurs vont pouvoir y passer ou non. Et j'ai utilisé le même genre de système pour cette fiction, ce jeu qui est malgré tout ancré dans le réel.
Malgré tout, oui, ancré dans le réel. Bon, alors après, dans cette, quand on prend le livre en main, Sigish, donc tu nous invites, toi, à une aventure de lecteur, parce que c'est une forme relativement originale de raconter des histoires, de mettre des commentaires qui viennent d'ailleurs, et toi, nous, en tant que lecteur, finalement, il y a une espèce de jeu qui s'établit entre ce qu'on lit, entre les commentaires, c'est d'essayer de savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, qui dit la vérité, qui influence qui. Et là, il y a tout un système qui est quand même assez complexe, je trouve, et qui fait que le lecteur a une espèce d'impression de plusieurs niveaux de réalité, quoi.
Bien sûr, bien sûr.
Il y a la réalité de ce que tu racontes, toi, la réalité, alors on ne sait pas de ce que disent les commentateurs, est-ce que tu n'en as pas inventé certains ? Ça, on se pose la question à un moment. Voilà, donc tous ces niveaux de réalité alimentent et nourrissent vraiment ce livre, quoi, et nourrissent vraiment ton récit, quoi.
Alors, moi, je voulais un récit qui dégénère. J'aime beaucoup les récits qui dégénèrent. mais dans la... Alors, bon, il y a dans l'histoire, hein, y a des histoires qui peuvent dégénérer. D'ailleurs, le début de l'histoire est très, très, très conventionnel. C'est une autobiographie qui a, sur les 30 premières pages, j'avais un lectorat assez sage. « Ouais, Florence, c'est très bien ce que tu fais, super. » Et à partir du moment où je fais advenir ce personnage dans la réalité, ce lectorat très sage est parti, il n'a pas supporté. Et j'en ai eu un autre. Voilà.
Oui, parce que la première partie s'appelle « Réunion de famille ».
Voilà.
Mais par contre, dans cette première partie, la révélation de ce que tu vas faire du personnage, ça se passe un 3 juillet.
Oui.
Dans une église.
Oui.
Hein, je crois qu'on fête les 95 ans d'un oncle de famille qui est prêtre. Et là, toi, tu as une révélation.
Oui.
Tu te dis, ben voilà, Sigi, je vais l'incarner maintenant et je vais le faire et tu vas piquer une hostie.
Oui.
Chose que tu n'avais pas fait depuis longtemps. Et puis après, l'hostie, tu vas la consacrer, mais à ta manière. Raconte-nous un peu.
Oui, alors après, il y a des symboles qui sont assez forts. Quand on est de tradition, en tout cas d'éducation, avec une éducation religieuse, la religion, c'est ce qu'on trouve énormément en jeu de rôle. Et une certaine forme de mystique. Et bon, après, j'avoue que c'est un récit qui a beaucoup joué sur la provocation et provoquer les lecteurs, ça c'est quand même assez facile. Et voilà, cette histoire d'hostie consacrée m'a permis de rameuter tout un lectorat dégoûté, puisque je suis allée sur des forums des forums chrétiens. Pour aller montrer mon travail, et qui sont ensuite intervenus pour dans l'histoire et dans les commentaires pour dire tout le mal qu'ils pensaient de
donc toi ton jeu en tant que maître du jeu, tu te dis je vais faire quelque chose qui me provoque.
Oui.
Je vais mettre un hameçon et puis je vais aller quand même dans l'endroit où ils sont.
Bah, bien sûr, il faut aller chercher les bien sûr.
Ouais, et tu vas
bien
les
sûr.
Chercher quoi.
Bien
donc,
sûr.
Donc tu vas chercher les catholiques plutôt.
Oui, mais ça, ce sont des personnes qui sont assez extérieures à ma vie. Et petit à petit, moi qui contrôlais le récit, je me retrouve. C'est un récit qui a duré 3 ans, hein, donc c'est assez long. C'est assez long, mais il y a eu petit à petit des personnes qui sont venues intervenir dans ma vie, qui ont j'ai reçu des lettres de menaces, des choses assez angoissantes. Je donnais des cours de bande dessinée dans une école d'art, et tous les étudiants évidemment suivaient le blog et venaient intervenir également dans ma vie de professeur. Il y régnait sur les cours une atmosphère tendue et sombre, puisque les étudiants ne savaient pas à quelle sauce ils pouvaient se faire manger, et ils savaient très très bien qu'ils pouvaient terminer dans l'histoire. Alors certains ont joué, d'autres non. Et d'ailleurs, le titre du blog était finalement assez clair. Immédiatement, ça s'appelle « Sigish et le sacrilège », où tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous. Donc, il y a une menace qui est à prendre au sérieux dès le départ.
Bon, ouais, d'accord. Voilà. Même, tu me racontais que quand tu allais donner tes cours, tu arrivais quand même déguisé en Sigish.
Alors, c'était pas un déguisement à proprement parler, mais j'étais habillée tout en noir. J'avais souvent des symboles avec des têtes de mort, des bagues avec des têtes de mort, des choses un petit peu inquiétantes. Voilà.
Donc, pour essayer de les provoquer, tes étudiants.
Bien sûr.
Alors, une question que je me pose comme ça, qui me vient. Donc, toi, tu faisais ça en dessin, mais alors tous les commentaires venaient uniquement en texte. Il n'y a pas des gens qui ont fait des dessins pour commenter un peu ton blog ?
Pas vraiment.
Pas vraiment. Il n'y a pas des gens qui ont eu l'idée de faire ça.
Non. Non. Parce que je pense que les gens étaient assez les lecteurs étaient assez déstabilisés. On savait pas où voulait. Ils savaient pas où je voulais en venir. Il y avait une sorte de crainte aussi, ouais. de se retrouver dans ce truc-là.
Ah, ils craignaient quand même de se retrouver, voilà. Parce que savoir à quelle sauce tu es allé les manger ou pourquoi tu les attirais dans un piège, ouais.
Bien sûr.
Ah, d'accord.
Bien sûr. Et j'ai eu aussi. Beaucoup de lecteurs, quand le livre est sorti, qui m'ont dit leur regret de ne pas avoir connu le blog avant et de ne pas avoir pu participer à ce jeu.
Ah d'accord, ouais, c'est intéressant quand même que des gens auraient voulu participer. Parce que, alors, bon, après, dans les commentaires qui sont assez extraordinaires, moi je trouve, alors il y a des gens qui écrivent très bien.
Oui.
Il y en a un autre là qui s'appelle Sevogrand, qui a un style d'écriture alors qu'absolument...
atroce.
Pas atroce, c'est du SMS poussé au maximum, quoi.
Oui.
C'est voilà. Ah, ouais, tu reviendras sur ce.
Je ne sais pas si je vais le retrouver. Hein? Oui, c'est sur Internet, ouais, bien sûr.
Oui, c'est lisible. Moi, je les ai lus. Hein. Tu peux les trouver dedans si tu en avais un. Alors, moi, ce qui m'a. Alors, quand on voit là aussi, un truc qui m'a fasciné là-dedans sur Internet, c'est les noms que se donnent les gens pour se masquer, pour se cacher, quoi. T'as Anonymous, Rémoulade, qu'est-ce qu'il y a, le pingouin. Puis il y en a un autre qui s'appelle Chien Méchant. Peut-être parler de lui un petit peu.
Oui, voilà, s'il te plaît.
On va parler de Chien Méchant parce que celui-là, il est vraiment hyper intéressant. Alors, tu me disais que ce personnage existait parce que, de toute manière, quand il y a un blog pour faire comment dire que ça bouge, il faut ce qu'on appelle un troll.
Oui.
Un troll, c'est celui qui vient pour tout détruire, quoi. Son but, c'est d'être... Donc ce troll-là s'appelle Chien Méchant, vu son nom. Donc c'est lui qui va dire les pires atrocités sur ce que tu fais, quoi.
Oui, il est très, très méchant. Alors, un troll va faire venir des lecteurs. Des lecteurs qui vont assister à une donc, ce troll me pourrit de façon abominable. Il dit des choses vraiment très, très, très méchantes à mon sujet. Souvent, sous la ceinture, sur le physique, sur le dessin. C'est vraiment, vraiment, vraiment abject. Et certains lecteurs ne venaient que pour... lire les commentaires de ce personnage abominable,
ouais.
Et se mettait donc dans une situation morale de voyeur et assez désagréable. Et petit à petit, je raconte évidemment que ce troll atroce, c'est moi.
Bien sûr.
Mettre en plus, mais ça c'est quand on connaît un petit peu Internet, on est habitué à ce genre de manipulation. Donc certains le savaient, mais d'autres sont fait rouler dans la farine en développant le syndrome du chevalier blanc pour me défendre des gens qui m'aimaient, donc qui se retrouvaient dans des situations extrêmement contradictoires entre l'amour et la haine. Et c'est ce sentiment très complexe et contradictoire, je voulais le provoquer parce qu'il génère le rire, un rire un peu le rire qu'on ne peut pas contenir.
Un fou rire ?
Ouais.
Ouais. Vraiment un fou rire, ouais. Mmh.
Voilà. Et placer mes lecteurs dans cette situation contradictoire et morale m'amusait beaucoup. Voilà, ça c'était une volonté.
C'était une volonté de provoquer, d'amener les lecteurs dans les... Alors, est-ce par rapport à ton projet initial, est-ce que les lecteurs, tu as pu les emmener où tu voulais ? Ou est-ce que tu... Bon, tu m'as dit que dans un jeu comme un jeu de rôle, il y avait des points de passage.
Oui, oui.
Donc, est-ce que tu as pu les emmener, toi, où tu voulais qu'ils passent ? Ou est-ce qu'ils t'ont emmené, toi aussi, par un moment, dans des endroits où tu n'imaginais pas que tu irais, quoi ?
Au début, c'est moi qui contrôlais.
Ouais, ouais.
Et ensuite, quand certains lecteurs ont commencé à jouer, j'ai suivi les lecteurs.
Tu les as suivis ? Oh, d'accord. Voilà. Tu les as suivis, donc tu allais te promener.
Voilà. Alors ce qui était particulier aussi, c'est dans cette forme du blog... c'était le temps de narration. C'était une bande dessinée en temps réel, normalement, dans un système éditorial classique. On a un livre qui sort et puis on va peut-être réagir a posteriori en donnant notre avis. Là, l'avis est donné immédiatement. le récit se nourrit de ce qu'il provoque.
Ouais.
Et on a une sorte de d'ogre.
Ouais.
Et en plus, ça reste, bon, par rapport, comme tu disais, pour une bande dessinée réelle, on la lit, on la termine, on s'attache sur des pages, on réfléchit, et puis on prend son temps. Tandis que là, comment les gens réagissent? Tu publiais ces images, c'était des réactions immédiates, quoi, pratiquement.
Oui, bien sûr.
Ouais, les gens réagissent à la page en temps réel, presque en temps réel, à ce que tu as écrit, quoi.
Oui, bien sûr. Bah, y avait des gens qui étaient abonnés, donc qui savaient tout de suite quand les publications étaient mises à jour. Donc, oui. Les réactions étaient immédiates.
Ouais, elles sont quand même en temps réel, donc ça veut dire que les gens ont comme une habitude d'écrire et tout ça.
Oui.
Et donc, ça, c'est... Alors, ça, c'est motivant, j'ai l'impression, quand on a fait quelque chose et que les réactions arrivent tout de suite. Quoi,
plutôt... C'est fascinant, bien sûr. Ouais. C'est fascinant.
Ouais, fascinant. Et toi, ça te permet de rebondir sur ce que tu vas faire juste
absolument.
Après.
Ouais. Absolument.
Donc, dans cette autobiographie, quand tu te promènes, bon, alors tu épingles un peu aussi les éditeurs, parce que tu en rencontres quelques-uns et t'en fais un portrait quand même qui n'est pas forcément flatteur.
Mais un portrait méchant. Mon personnage était un personnage méchant. Donc, j'allais pas les caresser dans le sens du poil, évidemment.
Ouais.
Après, il y a là le passage avec les éditeurs, c'est un passage de rôliste, hein, de maître du jeu.
Ouais.
Il me fallait des points d'ancrage dans le réel, très fort et indiscutable. Si j'avais raconté des histoires de famille, on peut toujours les contester.
Oui, bien sûr.
Alors que là, en passant par le milieu professionnel, je pouvais pas être contredite. Il y a un film qui s'appelle I'm Still Here, d'un des frères Affleck, avec Joaquin Phoenix. Et il est sorti à peu près en même temps que le démarrage de ce blog. Et c'est un canular et qui joue sur le réel et la fiction. Alors c'est donc Joaquin Phoenix qui a la carrière qu'on lui connaît, qui décide un jour d'arrêter le cinéma et de se mettre au rap. Donc il est évidemment extrêmement mauvais. Tout est abominable. Et il a pour lui, évidemment, d'avoir accès à des plateaux télé, des personnes. Alors, il rencontre des personnes du milieu du cinéma, habillé en rappeur. Il va se mettre à faire du rap pour montrer qu'il est vraiment à fond. C'est abominable, c'est extrêmement gênant et extrêmement drôle. Et lui utilise à fond ses points d'ancrage dans le réel et dans le milieu professionnel. Voilà. Donc c'était très important pour moi d'avoir la même démarche.
Ouais, d'accord. Pour la crédibilité, tu es obligé quand même d'avoir des points, comme tu dis, des points d'ancrage dans le réel. Donc tu as un portrait d'éditeur. Tous les sites en plus. Ces gens existent. Il y a quelqu'un chez Actes Sud. Il y a les Lord of the Rings chez l'association. Là, tu en fais un portrait qui est absolument hilarant. Là, les personnages sont vraiment très bien. Puis il y en a d'autres sur lesquels tu t'amuses. Et puis il y a celui aussi qui va t'éditer par la suite.
Oui, tout à fait.
Martin Zeller de chez Ankama. Qui lui aussi a l'impression que. Alors, moi, j'ai su après, à posteriori, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, mais son rôle est quand même... C'est un des déclencheurs, quand même, du projet, non ?
Oui.
D'accord. Oui. Sans lui, le projet n'aurait pas... Enfin, n'aurait peut-être pas eu de version papier, quoi.
Non, absolument pas. Absolument pas.
Mais alors, je vais te poser une question comme ça. Si tu n'avais pas trouvé d'éditeur pour faire une version papier, est-ce que tu l'aurais fait, ce projet ?
Ah, bah, bien sûr.
Ah, d'accord. C'était vraiment quelque chose qui te tenait, qui n'était pas non plus lié à l'édition derrière. Donc tu l'aurais fait et serait resté sur en bloc, quoi.
Voilà.
D'accord.
Voilà. J'étais trop fascinée par cette forme.
Par cette forme, tu voulais explorer vraiment ce que tu appelles un peu le net et le ventre de la bête, quoi.
Le ventre du net,
tout à fait. Que tu appelles comme ça, ouais. Donc, alors, dans ta quête, dans ton jeu, tu vas rencontrer pas mal de personnages. Tu vas en festival et tout ça, et là tu vas rencontrer une brochette de collectionneurs, en particulier un, Patrice, là, qui.
Oui, bah ça, c'est un collectionneur, mais que j'aime bien.
Mais qui va avoir une influence réelle sur le récit,
sur l'histoire.
L'histoire, il va avoir une influence réelle. Tu vas faire des choses que tu n'aurais pas imaginé que tu ferais, quoi.
Non.
Raconte-moi un peu les expéditions de dédicaces et trucs comme ça.
Bien sûr.
Ça va rappeler peut-être des souvenirs à des gens qui sont dans la salle.
Peut-être, je ne sais pas. Mais voilà, là, c'est encore une fois une partie du milieu professionnel en édition qui est souvent d'ailleurs assez mal vue. Et Et je voulais aller dans ces dans voilà dans ces ces chemins de traverse.
Donc et tu t'embarques un moment avec alors Patrice et
ah ouais Alice. Avec eux ça devient mes potes ouais ils sont horribles.
Ils sont libres ils t'embarquent à Angoulême là et tu nous racontes. Ouais. Alors tu fais ce que font souvent des collectionneurs amateurs de dédicaces, tu lèves à 4h du matin pour aller faire la queue à la porte d'entrée de la bulle
oui,
principale
du Champ de Mars oui.
Ouais, la bulle du Champ de Mars et là tu assistes à la ruée vers les postes de dédicaces et des trucs comme ça.
Évidemment.
Ça c'est et je crois que tu vas faire la queue aussi pour
Rossi.
Hein
C'est Rossi, je sais plus. J'ai fait la queue pendant des heures c'était des dédicaces qui étaient aléatoires. Donc on n'est même pas sûr,
Partirage au sort.
Voilà, partirage au sort.
Ouais.
Bon. Après voilà, je le raconte, je le filme. Donc on peut trouver des séquences vidéo sur le blog. Je vais demander des dessins pour ensuite pouvoir les revendre à je vais demander ça aux indés, donc ils détestent ça, ils ont une détestation de ce genre de pratique assez marquée. Donc je me fais envoyer chier. C'est aussi une façon d'ancrer le récit dans le réel. Alors, est-ce que le récit est juste réel ou est-ce qu'il est juste crédible? Ça, j'en sais rien.
Ah, ça, c'est une question qu'il faudra poser aux gens qui vont lire le bouquin. Alors, par contre, dans ce que tu racontes sur Angoulême, oui, c'est crédible. C'est très, très crédible sur le festival, sur le Barnum. Oui. Au moment quand tu racontes, quand tu fais... Il y a deux dessins qui succèdent quand on voit une rue d'Angoulême quand il n'y a personne. Oui. Et après, qu'on voit ces trucs quand les gens passent d'une bulle à l'autre. Là,
oui.
Ouais, c'est un truc que tout le monde a fait à Angoulême des
Bien
dizaines
sûr.
De fois. Ouais.
Bien sûr.
Donc, ton récit avance, tu rencontres Patrice, là, tu vas le voir aussi chez lui.
Oui.
Ah oui, ah ouais, moi j'aime beaucoup cette séquence, là, quand tu vas chez lui. Parce que d'abord, tu as rencontré Patrice, tu le rencontres de manière un peu curieuse. Tu rencontres d'abord sa maman,
oui.
Qui vient te voir pour que tu lui fasses une dédicace.
Absolument.
Et la maman te dit, bah, écoutez, c'est pour mon fils et tout. Après, tu vois arriver son fils, tu dis, c'est un gamin, non, tu vois. Adulte, je ne sais pas quel âge il a, il a peut-être
5
ans.
Oui, bah, un adulte. Hein.
Ouais, un adulte. Voilà, qui trimballe son sac et tout. Et après, alors, vous échangez un petit peu et puis tu te rends compte que Patrice habite à Oulin. Pas loin de chez toi. Et tu vas aller dans... Il va t'inviter à boire, je sais pas, dans sa maison, à visiter sa collection et tout.
Voilà.
Alors raconte-nous ça, parce que je pense que tu as une vision sur les collections, les objets, tout ça qui m'intéresse. Moi,
alors, moi j'ai une vision des objets, j'ai une angoisse des objets. Donc forcément, c'était assez facile de taper sur les collectionneurs. Voilà, ce sont des personnes assez touchantes malgré tout, même s'ils avaient avec son ami des névroses et des comportements extrêmement choquants pour des auteurs. Voilà, c'est des gens qui collectionnent, mais qui font pas que collectionner, qui revendent, qui se font de l'argent, quoi.
Non, mais c'est un vrai métier presque.
Oui,
hein.
C'est presque un
métier qui. Alors, ils sont deux aussi qui rivaux. Ils ont un challenge avec. Ils ont un challenge à celui qui récoltera le plus de dédicaces dans l'année, je crois,
ça. Oui. On s'amuse comme on peut.
Et puis alors concrétiser ce challenge, ils ont une réalité. C'est une statuette qu'ils appellent.
Alors c'est une statuette
d'Olivier Vatine.
Tout à fait, qui est assez grande, hein. C'est un truc qui est grand comme ça, comme ça. Donc c'est une, elle s'appelle la Full Metal Pépette. C'est une nana très très sexy, très gonflée. Et c'est vrai que bon, bah ça a dû leur coûter 1 500 €, hein, au moins.
Ce genre de statue, ça coûte très très cher. Quoi.
Voilà, elle est très très grande. Et donc c'est vrai qu'ils avaient une sorte d'amour assez troublant pour cet objet.
Tous les ans, donc ils font leur challenge et puis l'objet finit chez l'un ou chez l'autre, hein, en fonction de qui a gagné le challenge. Quoi.
Voilà.
Donc tu nous apportes des personnages comme ça que bon, je pensais pas que ça allait aussi loin, mais comme ça, c'est quand même assez extraordinaire. Quoi. Donc avec Patrice, après tu vois, il y a un autre personnage qui est assez intéressant. On parlait tout à l'heure de Vogort, là, un jeune homme, là, celui qui écrit tout en SMS, celui-là aussi, tu vas finir par le rencontrer.
Oui, tout à fait. Et je me rends compte d'ailleurs que cette écriture est fictive, il fait le malin. parce que il a pas du tout la tête à écrire comme ça, voilà, c'est, et même sa façon de parler n'est pas, ne colle pas avec ce qu'il a pu écrire, et ça fait partie des personnages qui sont, voilà, qui m'ont échappé, des personnes réelles qui ont influé sur le récit de manière troublante.
Ouais.
Voilà, j'ai perdu le contrôle avec ce genre de personnes.
Tu as perdu vraiment le contrôle. Temporairement ou définitivement?
Non, temporairement.
Temporairement. Et t'as pu rétablir le contrôle ou pas?
J'ai raconté ce qu'il voulait que je raconte. Alors après, c'est vrai que le retranscrire en bande dessinée, c'est toujours faire un pas de côté par rapport au réel qui est difficilement. On peut pas le retranscrire. Hein. Le réel reste le réel. Mais
oui, on le transforme toujours finalement.
Bien sûr, bien sûr. Dès qu'on est dans de la mise en scène, absolument. Mais malgré tout, c'est le réel qui est venu contaminer mon histoire.
C'est le réel qui revient pour vraiment contaminer l'histoire, ouais, et puis l'emmener, ouais, vers un domaine que vous n'imaginez pas forcément.
Ouais.
D'accord. Ouais, ouais. Et ça t'emmène vers où alors finalement, vers comment dire? Toi, tu l'as pris comment pour essayer de le prolonger ou essayer de récupérer le... Est-ce qu'il t'échappait, là, le bateau, de le remettre sur les rails?
J'aimais bien me faire contrôler.
T'aimais bien te faire contrôler, quoi?
Finalement, ouais. Et ouais, c'était assez pratique. Et y avait une dimension épique, la vraie dimension de l'aventure.
Ok, d'accord.
Voilà, je contrôlais plus tout, mais j'étais... Il y avait réellement de la surprise dans ma vie.
Vraiment de la surprise, donc.
Ouais.
Alors, finalement, au départ du bouquin, tu nous dis, je suis Siguiche, je vais être le maître du jeu, c'est moi.
Oui.
Donc, je veux tout maîtriser.
Oui.
Finalement, tu fais ça parce que tu veux te sortir de quelque chose, tu ne te sens pas bien, pour vivre quelque chose,
une aventure. Oui, sortir de soi-même.
Ouais. Et finalement, c'est le fait de te faire contrôler, que le truc t'échappe, qui fait que l'aventure se concrétise pour toi de la manière la plus positive possible.
Oui, et inattendue.
Et inattendue. Tu ne t'attendais pas à ça, quoi.
Alors, j'avais des intuitions en commençant ce récit, mais des intuitions qui étaient très floues. Mmh. Vraiment très floues. Voilà. Ouais. Et au début de l'histoire, je me pose une question. Qu'est-ce qui va advenir dans cette histoire? Est-ce que c'est... un personnage ou un scénariste.
Ok.
Voilà. Donc il y avait ces intuitions, ces questions qui sont posées au début du récit. Et même dans le titre du blog, je l'ai écrit sans y penser, sans savoir quelle serait la portée de l'histoire.
Voilà. Ah ouais, le titre incarne fiction, évidemment. Ouais. On se dit, voilà, je vais incarner, mais je ne sais pas où je vais. Quoi.
Non, absolument pas.
Donc, maintenant que tu es satisfait, c'est une situation où tu te laisses emporter. Toi, finalement, tu vas commencer à jouer le rôle un peu de scénariste à partir de ça ou pas?
Au début.
Au début?
Oui, au début.
Mais
au
à
début.
Partir du moment où tu ne contrôles plus, mais quand même, tu essayes de... Ou alors, est-ce que c'est un personnage qui t'influe ou est-ce que c'est un ensemble de personnages qui fait que tu te laisses porter par l'un, par l'autre, tout en essayant quand même de garder un certain cap, quoi?
Alors, le cap que je garde, c'est les choix, mes choix. J'ai pas pu tout mettre dans l'histoire. Il y avait
trop d'images,
trop d'éléments, de personnes qui m'envoyaient des textos, j'entendais des bruits dans la rue. C'était absolument pas paranoïaque. Hein, j'entendais mon nom. je me retournais, il y avait personne. Voilà. Bon, c'était quand même assez particulier. Mm. Donc j'ai dû faire des choix de scénariste là, effectivement. Okay. Sur le réel, mais sinon, ouais, sur la fin du récit, j'ai vraiment lâché prise.
T'as vraiment lâché prise?
Ouais, j'ai eu l'impression d'être plus maîtrisé et contrôlé qu'autre chose.
Ouais, parfait. Allez, donc, je reviens sur un truc qu'on a pas parlé, dont on parlait tout à l'heure, qu'on trouve intéressant. Il y a aussi, t'avais un autre blog qui était créé, je crois, à peu près en même temps, qui s'appelle Mea Culpa,
ouais,
qui était un blog intéressant parce que. C'est un blog de réaction d'auteur à la critique, c'est ça?
Non, c'est un blog de critique. Critique.
Oui, de critique, oui. Enfin, sous forme de critique, tu réagis aux critiques que tu avais entendues, quoi.
C'est un blog de critique de bande dessinée que j'ai mis en place avec ma sœur jumelle. En même temps que voilà, j'ai fait démarrer les deux blogs en même temps. Alors, celui qui a donné, donc Sijich, était sous mon nom, hein, donc on savait que c'était moi qui le tenais, alors que le blog de critique de bande dessinée était anonyme et extrêmement méchant. Voilà, c'était des critiques assassines, vraiment, c'était ignoble. Donc on prenait des bouquins qu'on lisait pas et on balançait toute la méchanceté qu'on pouvait sur ces bouquins et de façon anonyme. Et ça fait partie des jalons du réel et ça de la manipulation de initiale. Je savais que j'allais me faire descendre par des journalistes à propos de mon blog Sijich. Ce qui était devenu à peu près 2 ans plus tard. Et je savais que j'allais utiliser sans doute ce bloc de critique à ce moment-là. Donc quand, je crois que c'est Stéphane Beaujean, un journaliste, m'a descendu publiquement sur les réseaux sociaux, ce qui est relativement humiliant, j'ai sorti ce bloc de critique en disant « Haha, puisque c'est comme ça, moi aussi, je vais être critique de bande dessinée » et arrive donc ce bloc de critique était assez avait eu un certain succès forcément, hein, la méchanceté et la bassesse attirent toujours le lecteur ça plaçait le lecteur dans une qui avait eu accès à ce bloc de critique dans une sorte de confusion. Puisque le lecteur comprenait que depuis 2 ans j'avais mis en place ce bloc de critique en sachant que j'allais l'utiliser et se poser à nouveau des questions sur la question qu'on se pose sur à propos de ce livre, c'est est-ce que tout est vrai ou est-ce que tout est faux, à quel moment je me fais manipuler, voilà.
Ah oui, non, ce livre, ouais, c'est une question qu'on se pose continuellement. Est-ce que tu mens? Est-ce que l'auteur ment? Est-ce que ce qu'on lit là, est-ce que c'est ça? Ou est-ce qu'il faut essayer de chercher autre chose? Qu'est-ce qu'elle veut en faire? C'est des questions très très récurrentes là. Mais pour revenir sur le bloc de critique, vous avez fait des critiques, mais de bouquins qui existaient réellement?
Oui, bien sûr.
Ah, ouais, d'accord, vous avez fait ça pour vous amuser, pour répondre à tous ces critiques. Donc, est-ce que ce mea culpa n'est pas une espèce de double de Sigish un peu?
Si, bien sûr.
Un autre double. Et tu n'en as pas d'autres, comme ça?
Ah, mais je ne le dirai pas.
Il n'y en a pas d'autres, non, t'es sûr?
Certaines. Voilà. Après, je pourrais citer aussi comme référence, c'est une référence plus ancienne, mais je citerai Andy Kaufman, qui utilisait les réactions des spectateurs pour rebondir et partait toujours dans la provocation.
Okay.
Et avait un système d'humour qui était assez semblable. Mmh. Voilà.
Donc tu as gardé ce côté finalement, c'est quand tu te laissais embarquer, côté provocation disparaissait un peu, non?
Oui, bien sûr.
Il n'y a plus de provocation.
La provocation était uniquement là pour faire réagir les gens, l'électorat, et donc happer ces réactions réelles dans cette histoire.
Et nourrir son travail de scénariste sur cette histoire. Ouais. Bon, maintenant que le livre, la version papier est parue, on peut le dire avant, là tu ne nous le dis pas, mais on peut le dire qu'avant tu avais déjà c'était signé, tu savais que tu allais faire une version papier avant de faire le blog, ce qui t'a permis de le faire finalement.
Oui.
Hein, voilà.
Oui.
Donc maintenant, quelle conclusion tu tires de cette expérience, de 3 ans de ta vie comme ça, quelle conclusion t'en tires de cette aventure?
Alors, en tant qu'auteur, le travail d'auteur est un travail extrêmement solitaire, austère, à la limite de l'ennui parfois. Et j'avais besoin de vivre des choses extraordinaires et un peu plus, à un degré plus incarné avec les lecteurs. Et c'était une expérience très forte. Voilà, j'ai vécu 3 ans super fun. Et les lecteurs aussi. Voilà. Vraiment.
Et en tant qu'individu, finalement, pas qu'en tant qu'auteur, parce que finalement, c'est
pas. En tant qu'individu, en plus.
En plus de l'auteur.
Parce d'auteur, bien sûr.
Parce qu'au départ, tu parles quand même d'un malaise global, mais aussi malaise global par rapport à ton écriture, peut-être, mais aussi dans ta vie personnelle.
Ouais.
Et est-ce que ça t'a aidé à résoudre ces.
Là, ça devient trop personnel.
Bon, bah, ok. Ok. Voilà, donc, bon, moi, as-tu quelque chose à rajouter ? Si, on va parler peut-être un peu du graphisme quand même, le choix graphique, parce que tu me disais qu'au début, tu avais choisi par provocation, justement, une de tes premières provocations, toi quand même qui s'est très bien dessiné, tu avais choisi de, sur les premiers dessins de blog, de faire des dessins qui semblaient un peu maladroits pour essayer s'il y avait des réactions.
Ça, c'était une fausse piste. Donc, j'ai dessiné vraiment, c'était pas très très beau au début. Je voulais qu'on me dise ce que tu as fait, c'est super moche. Par exemple, des journalistes ou des gens du milieu qui le diraient de façon publique, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, en procédant ensuite par capture d'écran, j'aurais balancé une note de blog en dessinant ensuite extrêmement bien. Voilà, ça c'est ça n'est pas advenu, donc c'était une fausse piste.
Ah,
et il y en a eu plusieurs.
Tu en as eu plusieurs, lesquels par ça. Ouais, d'accord. Il y en a eu d'autres. Tu peux en citer d'autres, non ?
Oui. J'ai eu une fausse piste avec une histoire de bague avec ma sœur. Voilà, là c'était une fausse piste. J'avais volé une bague, j'avais filmé ça et elle a embrayé en fermant les possibilités. Donc,
d'accord.
Voilà, avec un mail que je publiais. Voilà.
Alors, par contre, dans les gens qui ont commenté ça, est-ce que tu as pu deviner, toi, parce qu'ils signaient tous pratiquement d'un pseudonyme, qui étaient derrière les gens qui essayaient d'influencer, qui voulaient et qui t'ont finalement entraîné dans cette...
Il y avait des proches, bien sûr, que je reconnaissais plus ou moins. Et petit à petit... et énormément de personnes que je ne connaissais pas. Après, bon bah, je pense que tu peux aussi donner le système des commentaires qui est un système de manipulation également,
bien
puisque
sûr.
Une partie des commentaires, je les ai écrits, mais je ne les ai pas vraiment écrits, puisque ce sont des copier-coller de forums.
De commentaires réels, quoi.
Voilà, de commentaires réels. Donc il y a toujours ce trouble entre une vérité, une réalité et une construction scénarisée.
Bien sûr, ouais.
Voilà.
Bon, sur un plan graphique, sur le blog, ça passe image par image. Et toi, tu construisais ta planche d'abord, quoi.
Oui, d'abord. Elle
composait ta planche d'abord. Et après, tu l'as découpée pour que ça sorte sur l'écran image par image.
Oui, oui, oui. Ouais. Sur le dessin, c'est un dessin qui a l'air assez sérieux. Je voulais un effet de sérieux.
Oui, c'est un noir et blanc assez...
Qui
cherche pas non plus à la virtuosité, mais qui cherche... C'est la tête de Sigish que tu lui as fait, elle est magnifique. Ouais, je trouve qu'il a vraiment une tronche de très méchant. Quoi. Mm-hmm, ça, c'est très, très réussi. Ouais. Voilà. As-tu pu estimer à peu près combien tu as eu de visiteurs sur le blog en 3 ans, à peu près ?
Quelques milliers.
Réguliers, quoi.
Ouais. Après, voilà, il y avait des comportements erratiques, des personnes qui venaient une fois, des personnes qui disaient tout, d'autres qui étaient abonnés. Il doit y avoir 300 000 lectures.
D'accord.
Mais voilà, après, comme c'est étalé sur le temps.
Ouais.
J'avais un système de blog qui me donnait pas un réel décompte.
Pas un comptage des gens, non ?
Non, ça c'est un truc. J'ai pas su le trouver, mais j'avais les lectures, mais pas les lecteurs.
D'accord.
Voilà.
Tu avais ça, ouais. Et bon, le bouquin est paru depuis plusieurs mois déjà. Est-ce que tu as eu des réactions ou quelques réactions
des
critiques, des critiques parce qu'on en parlait tout à l'heure.
Oui, des bonnes critiques.
Les critiques ont été bonnes, ouais.
Ouais.
En général, ouais.
Oui.
Donc
tu
as fermé Mea Culpa.
Non.
Non.
Non. Mais non, mais les journalistes ont adoré ce petit tacle sur leur profession. Mais de façon générale, je pense que c'est la forme qui a fasciné et le fait que. Voilà, c'est difficile de renouveler. Alors, j'ai pas cette prétention, hein, puisqu'on a quand même une forme qui reste de la bande dessinée. Hein, mais arriver à avoir un récit qui utilise une forme un peu nouvelle.
C'est une forme nouvelle. Ouais.
Alors, je pense pas être la première à avoir voulu faire ça, mais j'ai été la, sans doute celle qui a réussi à faire publier les commentaires, à faire publier un récit sous cette forme. Il y avait des blogueurs BD qui regrettaient et qui disaient n'avoir pas pu faire accepter la publication de leurs commentaires. Après, ils n'avaient pas de degré de lecture différent. Eux, c'était des commentaires sympas ou intéressants de leurs lecteurs. Ici, il y a une histoire, il y a plusieurs niveaux d'histoire, et dans les commentaires, il y a une histoire.
Puis il y a vraiment une interaction entre ce qui est écrit, ce qui est écrit littéralement, et ce qui est dessiné, et ce qui est écrit à côté, quoi.
Ouais. Après, la littérature le fait beaucoup plus.
Oui, j'imagine.
Il y a ce genre de recherche en littérature.
Ouais, genre de recherche.
Aux États-Unis aussi. Ouais. Aux États-Unis, on trouve des polars qui sont écrits, mais même dans la forme, uniquement avec des retranscriptions de forums internet.
C'est-à-dire que l'auteur prend tout ce qu'il y a sur les forums et construit une histoire avec tous ses textes.
Alors, il écrit une histoire lui-même, mais avec la forme du forum.
Avec la forme du forum.
Avec la forme du forum. Après, il va chercher des réactions réelles, mais va y adjoindre des réactions fictives et écrire une histoire sur ce nouveau média.
Voilà. Ouais, je pense que c'est comme un apport d'Internet. Là, puis moi, je pense que de toute manière, à le lire, je trouve que par rapport, j'en parlais. Enfin, il y a d'autres auteurs comme ça qui moi m'ont fait découvrir une aventure de lecteur.
Oui.
Et voilà, découvrir une forme nouvelle de raconter des histoires en bande dessinée. On pense à quelqu'un comme Marc-Antoine Mathieu, par exemple, qui a une manière de faire ses récits assez originale.
Bien sûr.
Toi, tu utilises le dessin, le texte. Il y en a d'autres, ou à Cyril Pedrosa, par exemple, aussi. Il y a des auteurs qui inventent des formes comme ça, narratives, à partir de la bande dessinée, tout en mêlant d'autres formes narratives qui sont vraiment intéressantes, quoi.
Ouais. Et j'avoue que j'aime bien aller chercher les nouvelles formes. Après, je mets du temps à trouver une façon originale, surprenante d'utiliser le blog. C'était pas forcément évident. Je me suis pas collée à Twitter, je me suis pas collée à Instagram, mais parce que je les ai pas pratiqués. Mais voilà, ce sont des médiums qui m'intéressent. En ce moment, j'essaie de travailler sur la télé-réalité, qui est une forme extrêmement vulgaire et populaire.
Oui, bien sûr.
Mais je ne sais pas encore ce que je vais en tirer.
Je pense qu'il y a des choses dedans là-dedans qui sont intéressantes, je pense, à tirer. Parce que le fait que ce soit populaire, ce n'est pas forcément péjoratif. Hein.
Non, alors ça peut être très péjoratif, mais ce n'est pas parce que toutes les formes actuelles sont vulgaires qu'il n'y a pas une forme intéressante à en tirer.
Voilà. D'accord. Bon, écoute, moi, j'ai terminé. Merci, Florence. Si tu as quelque chose à dire autrement...
Non, ça va.
Bon, Florence n'a pas fait que Siguiche. On va dire deux mots.
Ouais, si
alors,
tu veux.
Tu as fait Forever Sœur. Bon, comme tu nous disais, tu as une sœur jumelle.
Oui, alors ce sont des œuvres de jeunesse, des souvenirs de jeunesse avec ma sœur jumelle.
Forever Summer, c'est le...
Pareil.
Pareil. Tu as fait... Attends, qu'est-ce que j'avais pris ? Ouais, une série en trois tomes s'appelle Capucin.
Oui, voilà.
Qui est une espèce de rock fantasy un peu déjanté, quoi.
Ouais, psychanalytique, ouais. Psychanalytique et psychédélique.
Et t'as fait une série qui pourrait s'adresser aux jeunes aussi, qui s'appelle Borgnole.
Oui, là c'est une sorte de cartoon en BD.
Une chronique de vie sur la banquise avec des personnages, des personnages des animaux. Quoi.
Oui, c'est assez léger.
Ça peut se lire à partir de 8-9 ans. Les enfants peuvent se marrer, c'est en gag. Quoi. Voilà. Écoute, merci beaucoup Florence. J'encourage tout le monde à lire ce bouquin parce que c'est quand même quelque chose d'assez... une belle expérience que j'ai faite et puis je ne regrette vraiment pas.
Merci.